franceinter.fr. Il est 7h43 sur France Inter. Alain Baraton, Alain Bougrain-Dubourg, François-Régis Gaudry sont assis autour de la table. Il y a Pierre Veil qui nous a rejoint aussi parce que maintenant il s'intéresse au jardin, à la nature et à la bonne cuisine. Nous allons parler, paraît-il, mon cher Alain, d'un jardin, des jardins de Marquessac, c'est ça ?
Bonjour, oui, les jardins de Marquessac qui ont fêté leurs 20 ans. Oui. 20 ans, une grande fête a donc été donnée mardi dernier dans les jardins en présence de plusieurs centaines d'invités et d'un dinosaure.
Dinosaure, c'est vous.
Eh bien non, j'y étais, c'est vrai. Mais le dinosaure exposé en est un vrai, ou plutôt son squelette. Il est âgé de 150 millions d'années et il vivait dans le Wyoming aux États-Unis. Il a été acheté par Kléber Roussillon, le maître des lieux. Il accueille maintenant les visiteurs. Alors je vous disais que les jardins de Marquessac célébraient leurs 20 ans. Pour être exact, ils célébraient leur ouverture au public il y a 20 ans.
Alors il y a le château, il y a les jardins. Le château a précédé les jardins.
Ah oui, alors le château a été construit en 1692 et les jardins que nous visitons aujourd'hui sont nés dans les années 1850. Le créateur et le premier propriétaire est Julien de Serval, un ancien de la Légion romaine des Zouaves Pontificaux. Je trouve ça extraordinaire. Un homme qui est dans la Légion romaine des Zouaves Pontificaux qui a une idée, faire un jardin. Toujours est-il qu'il a vu en Italie des parcs extraordinaires et quand il revient chez lui, il n'a plus qu'une idée, offrir à son château un écrin hors du commun. Il va ainsi planter... et faire planter, bien sûr, plusieurs dizaines de milliers de buis, dessiner des allées sinueuses et installer, souvenir d'Italie bien sûr, des pins parasols et des cyprès.
Mais on dit que c'est un des plus beaux jardins de France, Marquessac, c'est vrai ?
Incontestablement, pour ces 150 000 buis taillés à la main...
Une 150 000 buis.
Ah, il y en a 150 000, mais c'est absolument stupéfiant à voir.
Hein. Il n'y a pas de pyrale là-bas.
Eh ben, attendez, justement... On va y revenir, parce qu'ils ont la chance à Marquessac d'avoir un homme qui s'appelle Jean Lemoussu. Jean Lemoussu est le jardinier en chef. C'est lui qui, pendant depuis très longtemps, œuvre à la destinée des jardins de Marquessac. Et c'est lui qui a été capable, donc Jean Lemoussu et ses compagnons, eh bien, de lutter contre une attaque d'abord de champignons en 2013 et contre les pyrales l'année suivante. Donc c'est terrible. Eh bien, ils ont réussi, j'allais dire, à surmonter le fléau. Et aujourd'hui, Marquessac est d'une beauté absolument inouïe. C'est un jardin, il faut vraiment le s'y rendre pour bien l'apprécier. Qui est en plus l'un des plus beaux, car il est situé sur un promontoire à 130 mètres de haut. Et d'en haut, on découvre toute la vallée de la Dordogne. Dordogne avec une vue, là encore, sur les plus beaux villages de France. Il y a des villages absolument sublimes, des villages d'ailleurs qui seraient, j'emploie le conditionnel, mais nous y reviendrons, peut-être menacés par le contournement de Bénin, qui est un projet routier qui déplaît beaucoup aux habitants, à suivre de près, parce qu'il est vrai que quand on découvre le panorama, l'idée qu'il soit, j'allais dire, détruit ou endommagé par la volonté de quelques politiques qui sont vraiment têtus dans leur projet, ça m'inquiète quand même très, très lourdement. Alors c'est vrai que les jardins de Marquessac méritent vraiment le détour. Il se situe, si vous voulez y aller, sur la commune de Vézac.
Et ils sont ouverts tous les jours ?
Alors, tous les jours, on va donner toutes les indications. Le prix d'entrée est de 9 € pour les adultes, moitié moins pour les 10 à 17 ans, et gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. L'occasion aussi de saluer Cannes, c'est le nom du squelette du dinosaure qui est donc maintenant vit à Marquessac. Et puis j'en profite, si vous le permettez, pour signaler que le château de Saint-Priest...
De toute façon, vous ne me laissez pas la possibilité de parler, alors
parce
je vous laisse.
Parce que c'est le printemps, et quantité de villes célèbrent le printemps, et je ne voudrais pas surtout les oublier. Donc, comme je disais, le château de Saint-Priest, qui fête les 30 ans de la foire aux plantes rares, avec sur place des associations, des producteurs venus de partout et des conférenciers. Ce château est sur la commune du même nom, dans le département du Rhône. Il y a aussi, aujourd'hui, dans les Hauts-de-France, les fêtes des plantes à Locon. Locon, c'est une ville du Pas-de-Calais. 70 exposants, plein de plantes. Là encore, il y a que du bonheur. Et enfin, un autre château extraordinaire, le château de Cheverny, dans le Loir-et-Cher. L'occasion de découvrir un ruban composé de 120 000 tulipes, Marquessac, 150 000 buis, Cheverny, 120 000 tulipes, et de participer aussi à la 15e édition de la fête des plantes. Là, il vous en coûtera 6 € pour la fête des plantes, mais sachez que c'est reversé à une œuvre sociale. C'est quand même du bonheur.
C'est que du bonheur. Et ça vous réussit, sur le plan du biorhythme, l'heure d'été. Pierre Veil, vous voulez poser une question ?
Oui, parce que vous parliez des dinosaures. Est-ce qu'on sait si les dinosaures émettaient des sons, Alain Bougrain-Dubourg ?
On a reconstitué les sons des dinosaures. Alors, on ne sait pas si ça correspond à la réalité, mais on peut l'imaginer, effectivement. Ça a été fait en Alberta, aux États-Unis.
Vous ne voulez pas nous le faire ?
Baraton serait mieux placé que moi pour ça.
C'était une sorte de rugissement,
Ouais, une sorte de rugissement.
Ah, ouais. Bah oui, il faisait pas c'était... miaou miaou, hein, on se doute bien. Bah,
attendez, permettez, il paraîtrait que les poules, nos braves petites poules, descendraient directement des dinosaures.
Tous les oiseaux.
Peut-être qu'un dinosaure faisait cote-cote. Alors, ça serait drôle, cote.
Question.
Barathon à la sève qui monte.
Question des auditeurs.
Tous les ans au printemps, je vous le confirme.
Un fidèle auditeur, mais dont on ne connaît pas le nom. Comment se fait-il que cette année, les tulipes, précisément, ne donnent que des feuilles et pas ou très peu de fleurs?
Il y a une légende qui voudrait faire croire que les tulipes se dégénèrent. Alors, on se dit, tiens, la tulipe, au bout de quelques années, n'est plus à même de fournir des fleurs. Comment ferait-on alors pour conserver ce que l'on appelle les tulipes botaniques qui sont capables de fleurir des dizaines d'années? La tulipe est une plante qui peut produire des bulbilles. Les bulbilles, ce sont des petites bulbes qui sont nées du bulbe principal et qui vont donner naissance à de nouveaux pieds. C'est une conséquence qui peut épuiser le végétal qui, préférant produire des bulbilles que des fleurs, se limitera à produire des feuilles. Deuxième possibilité, eh bien, la tonte a été effectuée sur des tulipes qui n'ont pas eu le temps de jaunir. Il faut que les feuilles sèchent avant qu'on les coupe. C'est-à-dire que quand on a des bulbes, c'est valable d'ailleurs pour les jonquilles, pour les narcisses, pour quantité de plantes, on laisse d'abord jaunir les feuilles et ensuite, quand elles sont bien sèches, on les coupe et là, le bulbe aura profité du jaunissement pour se constituer des réserves. Là, il y a peut-être eu des tulipes dans une pelouse, on tombe immédiatement après la floraison, voilà la conséquence. Mais il y a, surtout je crois, une troisième explication. La
Au
plante...
printemps, on va faire une question d'auditeur
oui,
par
oui,
émission.
Oui, c'est important parce que les tulipes intéressent quantité de personnes. Eh bien, il y a une troisième possibilité, c'est celle à laquelle je pense. La tulipe a besoin de temps en temps de se constituer des réserves pour refleurir les années suivantes. Eh bien, c'est cette année, tout simplement, où elle a décidé de se priver de fleurs pour se consacrer uniquement au feuillage. Donc, un peu de patience, l'an prochain, elle devrait refleurir. Avez-vous pensé aux bocaux de soupe pour Monsieur Bougrain-Dubourg? Non, mais j'ai appris que Patricia Martin, il faut le savoir, ça intéresse les auditeurs, consacre une grande partie de son dimanche après-midi à préparer le potage pour que...
Vous êtes jaloux, Barathon.
Jacques voilà. A récupéré il y a 7 ans un gros bac avec un pied de ciboulette qui était à sa petite mère. Il n'a jamais changé la terre. Cette année, il repart très bien, mais j'aimerais savoir si je dois faire quelque chose.
Non, parce que ce serait tellement dommage de détruire le souvenir d'une maman aimée, très certainement. Simplement, à l'automne, remettre du terreau en surface et ne pas trop bouger la terre.
Bon, j'ai un verger au bord de la Dordogne. Il est inondé 2 à 3 fois par an. Et ce, pendant quelques jours. Actuellement, il reste quelques pommiers. Les arbres fruitiers. Quels arbres fruitiers me conseillez-vous?
Pommiers, cognassiers, et peut-être, je ne sais pas, mais pourquoi pas des noyers? Parce que déjà, il n'y a pas de jeu de mots, une terre inondée, mettre du noyer, je trouve ça drôle. Mais le noyer, je vous rappelle, est la plante symbole de la Dordogne.
Très d'enfant.
La Dordogne, bah oui, mais c'est drôle.
Le Barathon version été, mais, enfin non, printemps été.
Il y a beaucoup en Dordogne, je parlais de Marquessac, c'est le pays de la noix, le noyer. C'est extraordinaire le noyer. En plus, ça vous fait un bois fabuleux.
Mais ça met du temps à pousser.
Ah, il faut du temps. Mais c'est l'avantage de la nature. On n'a rien sans rien, vous savez.